7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins sur RFI, chaque jour du lundi au vendredi. Et aujourd'hui, déjeuner sur son lieu de travail ou les nouveaux défis de la restauration d'entreprise. Certes, 3 salariés sur 5 dans le monde ne s'arrêtent pas pour déjeuner, mais la plupart des entreprises internationales vous diront qu'en France, avoir une mauvaise cantine, ça peut mettre les salariés de très mauvaise humeur. Au village mondial, comment évoluent donc les exigences des salariés? Hygiène alimentaire, malbouffe, gaspillage, innovation et surtout prix des repas. Bref, peut-on mieux manger au travail? Nous allons en discuter avec nos invités. Olivier Schramm, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur associé de PH Partners, qui est un cabinet de conseil en stratégie dans le domaine de la restauration. C'est un secteur qui est quand en partie épargné par les crises, qui se porte pas trop mal.
En partie, ouais. En partie seulement.
Anaïta Gignoux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice du marketing de Elior Entreprises. Numéro 4 mondial en restauration collective, sachant que le numéro 1 mondial, c'est aussi un groupe français. Et Elior, c'est plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, entre autres sur les assiettes des salariés de 13 pays. Stéphanie Héral, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondatrice de Mamie Cocotte, néo-cantine depuis 2012. C'est comme ça que...
C'est exactement ça.
Vous vous définissez pour des cantines un peu différentes.
On essaie.
Voire très différentes.
Voire très différentes.
Mais très minoritaires.
Oui, pour l'instant.
On en parlera. Et bien sûr, nous parlerons aussi des lunchbox, en Inde avec notre correspondant Sébastien Farcy à Delhi. Et quant à vous, les voisins et les voisines, nous attendons, si vous le souhaitez, si vous vous sentez concerné par le sujet, vos témoignages avant l'heure du repas sur votre lieu de travail, mais pourquoi pas aussi sur les campus où les étudiants mal nourris dans certains pays sont des graines d'opposants politiques. C'est bien connu. D'ailleurs, je vous livre, tiens, ce commentaire de cet étudiant à Dakar, il y en a marre des repas qu'on nous donne au quotidien à l'université. On mange du n'importe quoi. J'espère que ça changera un jour. Allez, je vous laisse le numéro de téléphone. 33 1 84 22 71 71. Olivier Schramm, si on parlait d'abord de la pause déjeuner largement grignotée au fil des années, y compris en France, les Français passent en moyenne quoi 20-22 minutes pour déjeuner, 1h30 il y a 20 ans.
Exactement, hein? Oui. La pause repas s'est considérablement rétrécie au cours des, on va dire, des 20 dernières années. Alors il y a plusieurs phénomènes qui expliquent cela, mais notamment l'organisation de la vie au sein des entreprises est loin d'être anodin. Ouais. C'est-à-dire une forme d'accélération du temps, le télétravail, le nomadisme, les gens qui se déplacent d'un lieu à un autre pour aller travailler. Finalement, les collaborateurs d'une entreprise qui n'arrivent plus à trouver de temps pour se rencontrer et qui investissent la fameuse sacro-sainte pause du repas entre midi et deux pour trouver, allez, on va caler encore cette réunion sur ce créneau-là.
Ouais.
Bon, tout ça fait que finalement, il y a une forme de spirale qui a conduit à cette réduction assez significative du temps passé à table.
12% des Français disent qu'ils mangent devant leurs écrans à leur bureau pour avancer les dossiers, c'est quand même beaucoup moins que les Américains.
Oui, là je pense qu'il y a plein de points sur lesquels on pourrait comparer notre mode de vie.
Ou les Britanniques d'ailleurs.
Les Britanniques.
45% des Britanniques, voilà, qui déjeunent devant travaillant.
Chez eux, c'est constitutif. C'est-à-dire qu'ils ont, je ne sais plus, mais 7 ou 8 pauses alimentaires véritablement significatives au cours d'une même journée, alors que le Français en moyenne va en avoir.
Sans s'arrêter pour autant.
Sans s'arrêter. Ah oui, non, mais ils savent manger et faire autre chose en même temps. Le Français, c'est quelque chose qu'il apprend, mais depuis très peu de temps.
Il y a quand même 30% des Américains qui s'arrêtent pour déjeuner.
Sans doute, oui.
Faire une pause de quelques minutes.
Oui, sans doute.
Alors, ceci dit, en France, le marché de l'emploi est surtout composé de petites et moyennes entreprises qui n'ont pas de cantine d'entreprise, pour la plupart.
Non. Bah oui, parce que c'est une réalité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour avoir une cantine d'entreprise, mais aussi pour que cette entreprise soit viable d'un point de vue économique, même si ça reste une économie subventionnée par l'employeur dans la quasi-totalité des cas, il faut aussi qu'il y ait un nombre de convives à midi suffisant pour la faire vivre, cette fameuse cantine. Parce que, bon, investir dans les locaux, le matériel de cuisine, ça coûte de l'argent, et à un moment donné, en face, on doit avoir un nombre minimum de convives. Donc, la restauration d'entreprise, dans ces cas-là, elle se traduit pas forcément par une cantine, comme vous dites, mais plus par l'octroi, notamment en France, de ces fameux titres restaurants.
Ouais. Ce qui est tickets restaurants qui permettent de les donner chez des commerçants et d'acheter de la nourriture.
Exactement.
Ouais. Voilà. Anaïta Gignoux, chez Elior, ce sont des questions qui vous intéressent aussi, le temps qu'on a pour déjeuner, les modifications des habitudes. Je parle même pas du contenu des assiettes encore là.
Non, tout à fait. Nous, on a vu aussi cette tendance. Les gens ont moins de temps pour déjeuner. Donc effectivement, on s'adapte, on réfléchit énormément. Effectivement, aux besoins des employés pour minimiser les files d'attente dans les restaurants d'entreprise, mais aussi proposer de la restauration alternative, comme de ce qu'on appelle la restauration rapide ou ce qu'ils peuvent emporter pareil devant leur écran ou aller un petit peu dehors dans le parc, s'asseoir sur un banc, manger pour maximiser en fait le temps qu'ils ont pour leur pause déjeuner.
Et pour vous, enfin pour vos clients, je pose aussi la question à Stéphanie Héral, pour les clients pour lesquels vous êtes prestataire et à qui vous fournissez des repas, qui sont cuisinés d'ailleurs sur place dans l'entreprise, enfin en tout cas préparés, les entreprises, vos clients vous disent que c'est important de proposer quelque chose qui puisse satisfaire. Quand je disais au début de l'émission que ça met de mauvaise humeur les salariés en France, vous confirmez ?
Oui, en fait, quand c'est de bonne qualité, que ça convient à la majorité des employés, ça devient un non-sujet. Mais quand la qualité est pas au rendez-vous et que le choix n'est pas au rendez-vous, ça peut créer des tensions sociales. Donc, plus en plus d'entreprises attachent de l'importance à la qualité de vie au travail, puisqu'il faut maximiser le...
Ça passe par ce qu'on mange.
Par ce qu'on mange et les services qu'on peut apporter au niveau de l'entreprise.
Et pour vous, Stéphanie,
oui, je partage ce point de vue dans le sens où aujourd'hui, à mon avis, l'assiette est aussi importante que le décor dans lequel on déjeune. Mmh. Donc ça, c'est effectivement aujourd'hui une vraie tendance puisque nous, on l'a mis en place sur notre premier site en se disant, la carte est essentielle et on a effectivement beaucoup échangé avec tous les utilisateurs et en revanche, la partie décor, c'est-à-dire là où ils se posent, ça devient quasi 50% aussi important que ce qu'on leur met dans l'assiette parce qu'ils ont besoin effectivement de se poser dans un endroit agréable.
Pas trop bruyant,
voilà, pas trop
lumineux.
Bruyant, exactement. Aujourd'hui, l'acoustique, c'est fondamental. Avoir plusieurs espaces avec des décorations différentes, c'est important aussi. Il faut effectivement que le collaborateur se pose dans un endroit dans lequel il se sente bien et que cette pause, effectivement, soit vraiment une coupure avec son espace.
D'autant plus que cette pause s'est raccourcie, Olivier Schramm. Oui.
Ben exactement. Donc il faut une restauration qui soit non seulement savoureuse, goûteuse, avec de bons produits cuisinés dans les règles de l'art, mais aussi une restauration pratique, donc avec des contenants, notamment quand on veut emmener sa restauration en dehors de...
En réunion notamment.
En réunion, mais pas seulement, aussi à l'extérieur, quand on a un TGV à prendre et puis qu'on a juste eu le temps d'attraper un sandwich, une barquette de salade. Si possible, faire en sorte que la salade tienne debout quand on l'a...
Alors néanmoins, plus d'un quart des Français apportent leur propre repas au travail. Est-ce que c'est pour faire des économies ou échapper à la cantine de mauvaise qualité, selon vous ?
À la résurgence de la gamelle. Enfin, ça, c'est un terme générique qui caractérise ce phénomène bien connu de tous ceux qui étudient le comportement des convives au restaurant, d'entreprise notamment. Et c'est vrai que c'est très significatif. On observe depuis les 5-6 dernières années une remontée en puissance du phénomène de la gamelle, c'est-à-dire de personnes qui emportent de chez eux.
Mais pour quelle raison, alors ?
Le phénomène économique est très souvent avancé. Je dirais que en fonction du lieu où le salarié va pouvoir se trouver, s'il est mécontent de l'offre qui lui est proposée au quotidien, ça va aussi être sa façon à lui, entre guillemets, de manifester ou en tout cas de compenser avec quelque chose qui le satisfera davantage, dont il connaîtra l'origine du produit, il l'aura élaboré lui-même ou c'est son épouse ou son conjoint qui l'aura élaboré. Donc il y a ça aussi qui finalement entre en ligne de compte.
Anaïta Gignoux, un repas à la cantine en moyenne dans une cantine d'entreprise, ça coûte combien pour le salarié ?
Justement, ça dépend du modèle économique qui est mis en place avec l'employeur qui est en face. Mais on peut dire que, en gros, si on considère en moyenne, c'est entre 7 et 8 euros le coût, enfin, ce qu'on appelle, nous, un ticket moyen.
Ça, c'est ce que vous facturez, ouais, ça.
Ce qu'on facture. Bah, le salarié va payer plutôt la part qu'on appelle alimentaire. C'est-à-dire, ça peut aller de 2,50 euros à 4 euros, 5 euros, 6 euros. En fonction d'effectivement du pouvoir d'achat et de l'endroit où il se trouve. Mmh. Mais en moyenne, c'est plutôt entre 3 et 4 euros.
Ça, c'est pour la France, parce que les entreprises, qu'elles soient françaises ou implantées en France, mettent pas mal la main au panier pour nourrir leurs salariés, pour que ça revienne moins cher aux salariés.
Ben, c'est le modèle français, en tout cas, de la restauration collective qui perdure aujourd'hui. Avec la crise économique, effectivement, certaines entreprises en difficulté, ou surtout dans l'industrie, demandent des efforts de part et d'autre, mais souvent en essayant de optimiser la main-d'œuvre qui sert à préparer, ou en essayant de trouver des formules de repas qui correspondent mieux aux pouvoir d'achat de leurs salariés.
Donc, quelles conséquences sur la qualité? On va y venir. Qu'est-ce qui fait, dans le fond, la qualité d'un repas dans une cantine d'entreprise? Quels sont les freins aussi pour mieux manger sur son lieu de travail? On en parle avec vous. Et puis, bien sûr, vous pouvez poser vos questions ou apporter vos témoignages au 33 1 84 22 71 71.
Nouvel album, l'amour encore, je compte et j'entreprends. Je garde mes codes, même si ma cote est montée entre-temps. Je me vois en big sur les affiches, en big sur les écrans. En vrai, ma vie est petite quand je mentalise à quel point Dieu est grand. Il me faut du cran, Renoir, il me faut du cran. La mort m'attend, il me faut du temps, donc regarde. Il me faut du temps, vu que le ton est devenu aigre. Je crée de nouvelles règles. L'album, c'est négritude, mais il ne sort pas chez Pascal Nègre. Dites à mes sœurs que dans mon cœur, elles ont le monopole. Dites à nos détracteurs que leur aigreur est monotone. Et dites aux langues de pute que je vais pas répliquer, que je préfère mourir incompris que de passer toute ma vie à m'expliquer. Hip-hop, t'es bloc épinglé, nous on a la cote et la porte est flinguée. Faites péter les portes, mon époque est blindée. Je me téléporte et me porte en indé. Mes potes qui bloquent le rindé, la prod qui choque est teintée. J'ai à peine commencé, je rigole parce que le score a grimpé. Dites aux petits frères de chez nous que la rue est redoutable. Et dites à Zemmour qu'il s'étouffe, je suis jugé non coupable. Dites à ma clique que la France peut être immonde. Dites à Malik que j'étais un moins que rien avant qu'il vienne au monde. Depuis je mêle amour, violence et colère. Flot insolent, j'ai mis un cheveu sur la langue de Molière. Putain, je suis tellement en avance, bordel. Mon album n'est pas le disque de l'année, c'est déjà le disque de l'année prochaine. Seul au monde, ma mère me manque au maximum. Étrangement, parfois je l'entends dans la voix de Nina Simone. Oh, oh. Dites aux rappeurs qu'on revient fermer des gueules dans ce rap game. Pas le meilleur, non, 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 je suis le seul, mon Dieu. Redites à CHI que sa musique est visionnaire. Dites à Philotan que je rappe, il sera millionnaire. Et dites à mon public que je n'ai pas de talisman, que seule la foi me guide quand je gagne ses applaudissements. Prince Parolier, je n'avais rien à perdre, maintenant j'ai gagné vos applaudissements. Je n'avais rien à perdre, maintenant j'ai gagné vos applaudissements.
Youssoupha, où est l'amour chez 7 milliards de voisins? Sur RFI, nous parlons des cantines d'entreprise. Aujourd'hui, si vous vous sentez concerné par le sujet, vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Et justement, on aborde la qualité. Quels sont, selon vous, les principaux freins à la qualité dans une cantine? Olivier Schramm, vous qui êtes consultant pour le secteur de l'alimentation dans les entreprises.
Bah, il y a déjà un aspect technique, structurel de base, c'est-à-dire que pour produire des bons repas, il faut une bonne cuisine, enfin je veux dire faite correctement, donc avec un minimum d'équipement de qualité pour assurer la production de ces repas. Il faut du personnel qualifié, notamment en cuisine, avoir des chefs de métier et des chefs qui possèdent encore le savoir-faire culinaire, la capacité à se renouveler, à proposer des menus appétissants et qui changent tout au long de l'année, puisqu'on a affaire à une clientèle par définition très captive et régulière. Et puis il faut évidemment des produits de qualité, donc une matière première dont on connaît l'origine, mais aussi qui soit connue pour ses qualités organoleptiques, nutritionnelles. Et donc ça veut dire que quelque part il faut y mettre le prix, et qu'on ne peut pas prétendre à un moment donné produire entre guillemets une prestation de très bonne qualité si il n'y a pas quelques minima et quelques prérequis en termes de coûts à mettre et à sortir pour pouvoir justement acheter ces bons produits, rémunérer à la hauteur de ses qualifications un personnel qualifié et se doter d'une cuisine, encore une fois, qui tienne debout.
Alors, il y a beaucoup de gens qui se plaignent, notamment qu'on assiste au développement d'une cuisine d'assemblage, où c'est pas cuisiné vraiment sur place, tout arrive séparé, on assemble, on cuit, des fruits en seau tout épluché, des frites et des légumes surgelés, trop gras, mal cuit, trop cuit, bref, un manque de goût, c'est ce qui ressort en fait, beaucoup, non? Est-ce que globalement, en France et ailleurs, les salariés, ça ressort dans des enquêtes internationales, cela, ou pas forcément?
Alors, ça ressort effectivement. Vous parliez de la cuisine d'assemblage, effectivement. Hein, pour donc en deux mots résumer ce que c'est effectivement une cuisine qui ne produit pas ses repas sur place ou qui assure un minimum de préparation froide, mais qui reçoit le cœur de ses repas, à savoir donc le plat garni d'une cuisine centrale ou pas, mais enfin d'une cuisine extérieure. Et c'est vrai que ça limite immédiatement un peu les possibilités de renouveler la prestation. Alors ça s'explique aussi, c'est-à-dire que en face de ces organisations de restauration, ce sont des entreprises qui ont considéré que le mètre carré immobilier était devenu tellement cher que consacrer finalement X dizaines ou centaines de mètres carrés à l'équipement d'une cuisine qui ne va somme toute fonctionner...
Il faut forcément de la place pour cuisiner bien.
Oui, il faut quand même un minimum de mètres carrés par, on va dire, tranche de couvert. Hein. On va pas rentrer dans les détails autour de ce micro, mais clairement, quand on veut pouvoir faire des économies, et on y arrive sur le plan de la restauration, en sabrant par exemple un certain nombre de surfaces qui seraient dédiées en temps normal à la cuisine, on est obligé de recourir à d'autres systèmes, alors qui peuvent être gérés si la chaîne logistique est bien maîtrisée, mais qui restreignent, je dirais, les possibilités d'animation culinaire sur le lieu, notamment du restaurant lui-même. Donc c'est une part de l'explication.
Alors Stéphanie Héran, justement, vous avez créé Mamie Cocotte en 2012, donc il y a 3 ans à peu près. Hein. Ça a été pour répondre à quelle demande? Pour proposer un autre type de cantine à des entreprises?
Exactement. En fait, on a avec mon associé fait un petit peu le tour de quelques cantines parisiennes avant de créer ce modèle, et on s'est surtout effectivement posé la question à l'inverse de l'utilisateur, et on s'est dit quelle serait un peu la cantine de nos rêves. Donc on l'a fait un peu à l'envers, et c'est vrai qu'on s'est vraiment posé la question de la carte, du décor, de l'approche globale des cantines d'entreprise. Et c'est vrai qu'aujourd'hui Mamie Cocotte, c'est un peu un mélange de tout ça, parce que on est à la fois un restaurant d'entreprise, mais aussi, et c'est la particularité du modèle, un restaurant commercial, puisqu'on a voilà cette spécificité d'être la première cantine d'entreprise ouverte à tous. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui le gros de nos troupes, c'est bien sûr de la restauration collective avec les gens qui sont sur le parc Carré 92, qui est notre premier site, mais des gens qui ont entendu parler du modèle et se disent tiens, à quoi peut ressembler une cantine un peu rigolote, un peu décalée, peuvent aujourd'hui venir déjeuner chez nous sans aucun problème.
Alors vous dites cantine solidaire, responsable, locavore. Ça veut dire quoi dans l'assiette?
Alors dans l'assiette, c'est-à-dire qu'effectivement on évoquait le fait qu'il n'y ait plus beaucoup aujourd'hui de cuisine sur place sur les sites pour les raisons que monsieur évoquait. Et c'est vrai parce que le prix du mètre carré est très cher. Nous on a pris le parti de faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui 95% de notre carte qui est faite sur place, qui est faite maison. Donc c'est effectivement revenir là encore à des choses toutes simples. Mais Mamie Cocotte, c'est aussi la cuisine affective, hein, la cuisine de notre grand-mère, on est revenu à des choses aussi basiques que ça, et donc on a aujourd'hui voilà, 95...
la cuisine de grand-mère, alors que les salariés plébiscitent quand même majoritairement, enfin la façon de s'alimenter a énormément changé ces dernières années.
C'est certain, mais quand on dit cuisine de grand-mère, c'est-à-dire que bien sûr notre plat phare, c'est les cocottes, mais qu'on revisite tous les jours au goût d'aujourd'hui, mais on trouve aussi des burgers façon grand-mère, on trouve des bars à salade qui sont effectivement
Quand vous me dites Mamie Cocotte, cuisine de grand-mère, moi je pense lapin à la moutarde. Les salariés n'ont pas du tout envie d'avoir du lapin à la moutarde, non?
Mais si, bien sûr. Aujourd'hui, les plats cuisinés, en fait, on se rend compte étonnamment que ça reste quand même un des plats qui sont vraiment plébiscités par les utilisateurs. Alors, c'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, la diversité, elle est fondamentale. Nous, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'offres qu'on a traitées un petit peu de façon ludique, mais c'est vrai que les plats cuisinés, et on évoquait aussi les viandes et les poissons, enfin, je veux dire, aujourd'hui, les protéines, c'est important, même si tout le monde...
Vos repas sont plus chers que si c'était fourni par un groupe de restauration collective classique?
Pas du tout, on est complètement au prix de marché aujourd'hui, on s'est complètement calé sur...
9,30€, non, c'est ça?
9,50 avec une participation un à 4,50 pour le collaborateur. Donc
c'est ça, il faut que l'entreprise suive. D'accord.
Oui, voilà,
on va en reparler, voilà, bien sûr.
À 10 centimes près, je pense qu'on est dans les prix du marché, mais même avec si on propose autre chose.
Ouais, Anaïta Gignoux, Stéphanie Héral, Olivier Schramm, vous restez avec nous. On parle des cantines d'entreprise et plus largement s'alimenter sur son lieu de travail.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI, 7 milliards de voisins. Nous parlons de la restauration d'entreprise aujourd'hui, un sujet qui alimente plus ou moins les conversations en fonction de la qualité de ce qui nous est servi, selon les pays aussi. Nous en discutons avec nos invités, Anaïta Gignoux, directrice marketing de Elior Restauration. Vous employez quand même 45 000 personnes en France, 100 000 personnes si on compte les 13 pays dans lesquels vous êtes implantés. Vous êtes numéro 4 mondial pour Elior. Stéphanie Héral, cofondatrice de Mamie Cocotte, restaurant inter-entreprise des cantines différentes, mais encore minoritaire. Vous nous direz tout à l'heure si ce type de modèle un peu différent peut grignoter le modèle traditionnel de masse, de bouffe de masse. Olivier Schramm, vous êtes directeur associé du cabinet de conseil stratégique en restauration, PH Partners. Et bien sûr, vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Allez, nous partons maintenant pour l'Inde avec ses lunchbox. Voilà, on est bien dans le train de Bombay qui permet à plus de 7 millions de travailleurs et écoliers de circuler dans cette mégalopole de 15 millions d'habitants. Et parmi ces voyageurs dans le train tous les jours, dans le compartiment marchandises, vous trouverez les Dabawala. Bonjour Sébastien Farsi.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Alors qui sont ces fameux Dabawala ?
Eh bien, à première vue, ils ont l'air sortis d'une autre époque, habillés d'une tunique de coton blanc et coiffés d'un chapeau traditionnel gandien. Ces milliers d'hommes frêles arpentent les stations de train de Bombay armés de longs casiers qu'ils portent sur la tête. Dans ces casiers, eh bien, des dizaines de hautes boîtes en aluminium. Ce sont les dabba, donc ce qui veut dire en hindi les boîtes à déjeuner. Et elles sont composées elles-mêmes de plusieurs récipients empilés les uns sur les autres et resserrés par une tige pour rester solides. Et dedans, dans ces boîtes, eh bien, se trouve le précieux déjeuner chaud que l'épouse du travailleur vient de cuisiner vers 11h. Et le rôle de ce dabawala, donc de ce porteur de déjeuner, est d'aller chercher ces boîtes au domicile et de les livrer encore chaudes sur le lieu de travail de l'époux vers 13h.
Mais alors pourquoi le salarié n'emporte pas son repas le matin pour le réchauffer sur son lieu de travail, Sébastien?
En effet, c'est une très bonne question. Tout simplement car il n'y a pas de micro-ondes sur ces lieux de travail et il n'y a que les nouveaux bureaux des nouveaux quartiers d'affaires qui sont situés dans des tours construites plus récemment. Eh bien, qui compte des espaces de repas tels qu'on les connaît en France avec four ou micro-ondes. Mais il y a en fait très peu de cantines d'entreprise en Inde. Aussi, il faut savoir que les Indiens sont très attachés à la nourriture maison, préparée que ce soit par la mère ou par leur femme, et ils n'ont pas confiance dans les restaurants, dans l'hygiène de ces restaurants, ni même les moyens d'y manger. Si certains d'entre vous ont vu le récent film Lunchbox, on remarque d'ailleurs que dans cette administration indienne typique, la salle de déjeuner est très basique. Il y a juste quelques tables, pas de couverts ni d'assiettes. On sort ces différents récipients du dabba et on mange les légumes et les lentilles avec les mains à l'aide des galettes de blé qu'on appelle les chapatis.
Ce service de dabawala alors est quand même très complexe sur le plan logistique. Les livreurs ne se trompent jamais, ne livrent jamais la mauvaise boîte aux mauvais salariés.
Eh bien non, en effet, sa fiabilité est légendaire. Il faut dire que ça existe depuis 125 ans. Ces livreurs sont à peine lettrés. La plupart d'entre eux sont allés à l'école jusqu'à 14 ans à peine et doivent gérer malgré tout 150 000 à 200 000 livraisons par jour en train et à vélo. Dans le chaos urbain de Bombay, je peux vous dire que c'est très difficile. Les numéros des rues sont rarement indiqués, tout simplement. Mais grâce à ce système, ils ont développé tout un réseau performant d'indications grâce par exemple, sur chaque boîte, eh bien, il y a un ensemble de lettres, de chiffres en couleur qui forment un code, ce qui indiquera au livreur à quelle station de train récupérer puis livrer chaque dabba. Un système collégial qui fait que chacun est responsable d'une zone. Et à la fin, eh bien, c'est un salaire égal qui est distribué pour tous. Résultat, il n'y a quasiment jamais d'erreur. Et malgré la concurrence des livraisons à moto ou les livraisons par drone, aujourd'hui aussi, eh bien, les affaires des dabawala ne semblent pas être prêtes de faire faillite.
Alors, dernière évolution, Sébastien, la redistribution de nourriture également.
Oui, en effet, des centaines de familles et d'enfants vivent dans ces rues de Bombay, il faut aussi le dire, et ils mangent à peine un repas par jour. Alors, ces Dabawala ont accepté de les aider avec un système très simple. Quand un client n'a pas fini son repas, qu'il reste un peu de lentilles et de galettes dans son récipient, eh bien, au moment de récupérer ces Dabawala pour les redistribuer dans leur famille, eh bien, le client colle une petite étiquette rouge sur sa boîte pour indiquer qu'il accepte d'offrir ses restes à ses enfants affamés, et les Dabawala s'occuperont de leur livrer gratuitement.
Merci beaucoup, Sébastien Farcy, pour ce point sur les boîtes à déjeuner en Inde. Merci infiniment, Olivier Schrams. Qu'est-ce que ça vous inspire? On parlait du retour en force de la gamelle en France, de ces Français qui apportent leur repas alors le matin, parce qu'ils peuvent le faire réchauffer eux sur leur lieu de travail.
Juste une petite parenthèse, moi, à titre personnel, l'Inde est un pays que j'adore, dans lequel je suis allé plusieurs fois et dont j'adore la nourriture, et c'est vrai que ce système est absolument génial, quoi. Et vous savez que, pour l'anecdote, quelques grandes universités américaines se sont penchées et ont étudié de très près le système logistique très complexe qui le fait fonctionner tous les jours. Alors effectivement, on est loin de ce système-là en France, même si la gamelle, on le répète, est en train de connaître une forme de revival et de résurgence au sein des restaurants d'entreprise, ce qui est parfois pas sans poser quelques problèmes de partage des locaux qui peuvent être occupés d'une part par une organisation de restauration produisant et servant ses repas et qui accueille aussi par ailleurs les salariés avec leur gamelle. Voilà, je pense qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans le reportage en Inde, c'était cette confiance dans le produit, dans son origine, dans la façon dont il a été fait et le fait maison. Peut-être pas pour rien qu'aujourd'hui il y a un label qui dans la restauration commerciale va mettre en avant et davantage afficher et revendiquer pour un restaurateur cette capacité à produire du maison. C'est quelque chose de très attendu par les convives.
C'est ce que vous reproduisez d'ailleurs, Stéphanie Hérald, dans vos cantines alternatives.
Exactement, c'est ce qu'on, et on a privilégié aujourd'hui le fait maison, et on a 95% de la carte qui est faite aujourd'hui sur place, parce que c'est vrai que c'est une vraie attente des collaborateurs de savoir d'où le produit vient, donc d'où effectivement beaucoup de réseaux pour nous locavores, coopératifs, pour avoir des produits frais, des produits de saison et faire des choses effectivement très simples, cuisiner sur place. Oui, ça a beaucoup de sens.
Mais alors par exemple, si vous faites du riz, le riz il n'est pas produit...
Non mais évidemment qu'on ne peut pas le faire sur 100% de la carte. On est un peu pionnier en plus dans le système, et c'est vrai que sur le papier c'est très facile, dans la pratique ça ne l'est pas du tout, parce qu'on est quand même assujetti à toutes les normes alimentaires de sécurité qui nous obligent aujourd'hui en termes de traçabilité à aller très très loin. Mais c'est vrai que voilà, nous on a amorcé ça, et je pense aujourd'hui que les collaborateurs sont très contents.
Vous trouvez que parfois les normes alimentaires sont trop contraignantes pour faire de la qualité, de la bonne cuisine ou pas? En tout cas en restauration d'entreprise, quand même on fait pas mal de couverts.
Moi je pense aujourd'hui qu'il faut bien évidemment de la traçabilité, il faut de la norme alimentaire, parce que je pense que c'est vrai que tout le monde est soucieux aujourd'hui de savoir d'où ça vient, comment c'est cuisiné. Maintenant, c'est vrai qu'il faut pas que ça devienne un frein non plus à faire des choses de qualité, toutes simples, de saison. Parce que
à quoi vous pensez là, par exemple?
Parce que c'est vrai que par exemple nous, typiquement sur notre bar à salade, les légumes arrivent entiers, on les débite sur place, c'est très compliqué parce que c'est des terreux, donc c'est vrai qu'on a effectivement un système derrière.
Terreux, c'est-à-dire?
C'est-à-dire que les carottes, elles poussent dans la terre, donc elles arrivent avec de la terre, donc il faut les nettoyer. Et c'est par exemple effectivement pour avoir une qualité de produit hyper qualitatif, c'est ce qu'on a décidé de faire. C'est super compliqué, et exactement. Et ça nécessite derrière des croisements en termes HACCP qui sont compliqués. Donc ce serait beaucoup plus simple aujourd'hui pour nous d'avoir des carottes râpées qui arrivent dans des seaux, comme vous disiez tout à l'heure. Nous on a pris le parti de faire autrement, mais c'est en termes de complexité, on se rajoute effectivement.
Anaïta Gignoux, vous êtes directrice marketing de Elior Restauration, globalement, les salariés disent les fruits, les légumes, ça a pas de goût dans les cantines d'entreprise. C'est vrai?
Non, enfin moi je pense, je peux pas dire ça. En fait, nous aussi on essaye le maximum de faire de la cuisine sur place. Les produits viennent bruts, mais je pense que en tout cas nous en tant que grande entreprise,
quand on dit les produits viennent bruts, par exemple les fruits
ils sont épluchés
sur place
les
le matin
légumes,
même.
Ils
arrivent pas dans des seaux.
Ça peut arriver sur certains restaurants qu'ils arrivent dans des seaux, mais dans la majorité
pourquoi,
de nos restaurants...
Pourquoi, dans ces cas-là, quelle est l'option? Pourquoi
il y a l'option du... C'est une question de main-d'œuvre.
De fruits arrivés en masse, déjà tout épluché, probablement la veille.
C'est une question de main-d'œuvre. Après, ça dépend du modèle économique qui
ça
est en
quoi,
face.
Ça veut dire quoi, ça dépend du modèle? Ça veut dire que ça coûte moins cher ou plus cher de faire venir des fruits tout épluchés?
En fait, ça dépend vraiment... ça coûte plus cher, des fruits épluchés dans des seaux, ça coûte plus cher que de les prendre bruts et de les éplucher en fonction du nombre.
Alors pourquoi finalement il y a autant de produits qui sont simplement assemblés et qui arrivent déjà tout préparés
très à l'avance?
Ça dépend
du nombre de couverts que vous avez en face et de ce qui a été vu au niveau des possibilités de cuisine, de main d'œuvre que vous avez
sur
place.
Mais vous, qu'est-ce qui vous empêche de faire une cuisine plus goûteuse, Anaïta Gignot?
Enfin, après, ça dépend.
L'argent, c'est le prix uniquement.
Il y a le prix, effectivement. Par exemple, tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter de la viande label rouge. Sur certains contrats,
Le poisson, c'est le gros.
Voilà,
la viande, le poisson,
déjà le goût de la viande, oui. Ça dépend vraiment de la qualité de la viande. Après, effectivement, nous, ce qu'on essaye, c'est d'avoir des personnels qualifiés, mais sur la même recette qu'on va préconiser dans nos cartes saisonnières à deux chefs différents sur deux sites différents, l'exécution peut être différente puisque ça dépend aussi de la formation du chef qu'on a en face.
Comment expliquer que des produits très peu coûteux, je prends le riz, hein. Le riz, vous mangez du riz brisé au Sénégal, c'est à la portée de toutes les bourses. Comment expliquer qu'en France, dans un restaurant d'entreprise, le riz est de mauvaise qualité, Olivier Schramm?
On pourrait prendre l'exemple des pâtes aussi, qui est effectivement souvent cité. Moi, je suis toujours étonné quand je vais en Italie, même dans les collectivités, les pâtes sont excellentes. Donc, je pense qu'il y a une question parfois de savoir-faire. Il y a un volume d'eau par rapport à un volume de riz ou de féculents à respecter.
Il n'y a pas besoin d'avoir fait Bac+10 pour savoir cuire des pâtes ou du riz.
Je vous le concède. Néanmoins, quand les pâtes ont fait l'objet d'une préparation en liaison froide, c'est-à-dire cuite, refroidie pour être remise en température et qu'on ne respecte pas un certain nombre d'étapes indispensables pour restituer au produit sa qualité, son côté nutritionnel, agréable en bouche, c'est comme ça qu'on arrive effectivement un peu trop souvent à des résultats...
La standardisation aujourd'hui, effectivement, peut vraiment nuire aux produits, ça c'est certain. Et je pense que revenir à des basiques, c'est-à-dire cuire sur place très simplement, là on regagne clairement
qualité.
Les pâtes,
elles sont cuites sur place, c'est pas pour autant.
Pas toujours, effectivement, comme dit monsieur, je pense qu'il y a aujourd'hui des modèles très, très standardisés. Nous, on a essayé de faire exactement l'inverse, mais c'est vrai que ça peut nuire complètement à la qualité du produit qu'on va retrouver dans l'assiette. C'est vrai qu'après, la cuisson sur place, c'est plus compliqué pour d'autres raisons, mais voilà, on va retrouver des choses simples. Et si on a un bon produit, forcément on aura une super assiette quand c'est fait sur place, ça c'est évident.
Anaïta Gignot ?
Non, je suis d'accord. Après, effectivement, faire des pâtes pour 15 personnes ou 30 personnes, c'est pas pareil que de faire des pâtes pour 3 000
couverts. Mais la preuve, c'est que les Italiens savent le faire dans des restaurants d'entreprise.
Effectivement, mais nous aussi, on sait le faire, mais on peut trouver des restaurants d'entreprise où c'est mal fait. Après, je vous dis, ça passe par de la formation, on a quand même un pouvoir d'achat au niveau des produits qu'on appelle les produits bruts qui nous permet de pouvoir avoir de bons produits parce qu'on a pas mal de restaurants, donc on peut acheter quand même de bons produits et puis les faire sur
place. Alors aujourd'hui en tout cas les salariés, ils veulent manger bio, ils veulent manger halal, ils veulent manger kasher, ils veulent manger rapide, ils veulent manger végétarien, ils veulent manger pas cher. Comment concilier toutes ces demandes particulières? On y revient dans quelques instants. I'm looking back at snapshots as a kid walking the streets of a crowd where I'm born and raised, reminiscing of how we used to be, watching TV with dreams of rocking with PE, till I got them fake sneakers with the 4-strap Adidas, to come to school and all the kids teased us, like, oh Jesus, why we so poor, shall they make a ball, kind of raw, yeah, fast forward 95 or 96, a ride for, side lover, kind of sick, creeping out the house late night thinking I'm slick, till my mama grabbed the belt, you better go back to sleep, could it be that it was all so simple, all I ever needed was a pad and a pencil to illustrate this moment of time, kinda ill. Growing up was beautiful, you know the deal. So raw, so goddamn raw. Ambassador, holding it down with Cypher. So raw, man, it's so goddamn raw. Ambassador. Yo, I
I arose from the broken glass. 40 years and smoking hash, molded as a soldier in this culture of the lowest class. Blowing past the Carter with body armor to conquer this metropolis. Probably Martin Gotti, parliament politics. Got a problem with dominance. Pop a lot of script bottles, hit lotto and start to swallow with hollow tips. Conjure demonic shit, laughing, cracking the surface. Lurking the rap cast and the lack of magical verses. Half the masses are wasted, these whack mechanical versions. And tapping the pack rats on the path of radical churches. Master the perfect grab of converted racks. Where nervous survival and turning vinyl in reverse to scratch. So crisp the hacks, yo, I'm burning all the work. This rap off this walking city blocks of microphones earning daps. Observe the last depictions of written poetry with cyphers. Getting open over compositions, going deep.
Scratch Bandit Screw chez 7 milliards de voisins sur RFI. Et nous parlons de la restauration d'entreprise, les cantines, de déjeuner sur son lieu de travail pendant qu'on discute et qu'on parle de la guerre des prix, d'ailleurs, entre les concurrents eux-mêmes. D'ailleurs, le numéro 1 mondial de la restauration collective est français, le numéro 4 aussi, il est dans le studio avec Elior. Un message nous est posté de Dakar. Samba nous dit, dans certaines entreprises, la restauration est synonyme de maladie en raison de la qualité du repas. À la cantine de mon entreprise, heureusement, il y a des agents qui contrôlent de temps en temps ce que nous mangeons. Sinon, payer un travailleur pour que son salaire serve à acheter des ordonnances, ça ne vaut pas la peine. C'est vrai qu'il y a encore des pays qui en sont au problème de l'hygiène et de la sécurité alimentaire, mais y compris d'ailleurs en France, où ça reste quand même une préoccupation majeure. Hein. Les salariés qui se plaignent de maux de ventre, sans que ça soit forcément d'ailleurs un arrêt maladie. Hein.
Oui, enfin là je serais moins dur. Je pense que s'il y a bien un environnement dans lequel l'hygiène est je dirais maîtrisée, voire très bien maîtrisée dans la quasi-totalité des cas, c'est celui de la restauration collective. Je dirais pas autant de la restauration commerciale, de la restauration de centre-ville par exemple. La restauration collective, de ce point de vue-là, en France en tout cas, et dans l'espace européen d'une manière générale, est très encadrée. Et il y a aucun opérateur de restauration collective aujourd'hui, quel qu'il soit, qui peut se permettre de jouer avec cet aspect-là, c'est sa crédibilité, c'est sa viabilité économique, c'est son avenir qui est en jeu. Donc ça, c'est un prérequis fondamental. Qui est même, d'ailleurs, je dirais, à un moment donné, c'est presque un prétexte, d'ailleurs, dans certaines conditions, pour limiter, et là on revient à vos questions sur la qualité de la prestation, c'est-à-dire que des fois on s'est un peu trop réfugié, principe de précaution à la française, je ne sais pas, derrière le ok, c'est pour des mesures d'hygiène qu'on va pas, par exemple, vous proposer une vinaigrette faite maison. Qu'est-ce qu'il y a de pas hygiénique dans le fait de faire sa vinaigrette au restaurant le matin pour agrémenter les salades que vous proposez à votre clientèle. Or, on peut constater qu'aujourd'hui, dans trop de restaurants encore, vous avez ces boutons poussoirs avec ces vinaigrettes industrielles qui vous débitent un produit.
Vous aussi, chez Elior, on a les deux.
Vous avez les deux, c'est ça. Mais qu'est-ce qui coûte plus cher, la vinaigrette préparée sur place ou la vinaigrette qui arrive en bidon?
Mais je pense que c'est équivalent pour moi. C'est en tout cas c'est quelque chose qu'on préconise pas. On préconise la vinaigrette maison.
Mais vous vous sentez sous pression dans une guerre des prix ou pas? Y compris pour les grands, surtout pour des grands groupes comme le vôtre.
Oui, on est sous pression. En fait, notre métier est un métier au centime près. On gère au centime près. Donc, effectivement, en fonction de la guerre des prix entre les différents acteurs, plus ce qu'on appelle, ce qu'on nous demande au niveau des entreprises, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc, par exemple, tout ce qui est bio ou label, etc., ça va devenir des options. Il y a certains contrats sur lesquels on peut pas apporter ces options-là puisque on n'a pas en face les coûts qui permettent de le faire.
Stéphanie Héral, pour une petite entreprise comme la vôtre, Mamie Cocotte, comment ça se traduit ça?
Bah écoutez, nous aujourd'hui on est moins centimier dans le sens où d'abord on a très peu de sites ouverts bien évidemment comparé à Elior et on essaie de faire exactement le contraire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous on a une discussion en amont avec nos utilisateurs et on essaie effectivement d'avoir des produits au contraire qualitatifs et comme on a un modèle un peu particulier qui est d'aller chercher des gens à l'extérieur, je pense qu'en termes de modèle financier ça s'équilibre un petit peu différemment, donc je pense qu'on fait moins la guerre sur le produit. Il y a d'autres sujets sur lesquels lesquels on tente de faire des économies, mais je pense qu'effectivement...
Sur quoi, par exemple?
Notamment, nous, on a un système de caisse qui est particulier, puisqu'on n'a plus de caissière. Donc, on a fait quelques économies, nous, en termes de masse salariale, qu'on a remis clairement dans le produit. Donc, c'est vrai que les gens viennent chez nous, nous disent « C'est bon, c'est du goût, on voit que c'est fait maison. » Je pense que, voilà, ça, c'est un message hyper important. Donc, c'est vrai que je dis qu'on est aujourd'hui dans ce registre-là. Peut-être que quand on aura 500 sites, on fera autrement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le sujet du produit, il est juste phare chez nous. Voilà.
On n'a pas encore parlé du gaspillage alimentaire. 18% des repas de cantine, c'est ce que j'ai lu, hein, des repas de cantine d'entreprise partent à la poubelle chaque semaine. C'est vrai, ça, Olivier Schramm?
Oh oui, c'est vrai. C'est même.
Ils font déduire quoi? Qu'on sert trop en quantité ou que c'est pas bon?
Si on le ramène à la société globale, c'est 30% aujourd'hui de ce qui est produit pour être consommé.
Alors,
normalement.
Vu comme ça.
Donc c'est vrai que c'est une façon de relativiser la performance du monde de la restauration collective, mais c'est une réalité. Quoi. Je veux dire, à un moment donné, on est aussi face à certains paradoxes, c'est-à-dire qu'on veut pouvoir proposer un choix le plus large possible à la clientèle qui va fréquenter son restaurant jusqu'à son heure de fermeture. Donc ça se gère, ça s'anticipe, mais ça peut vous placer en tant que gestionnaire face à des situations parfois un peu délicates où vous avez produit un peu trop et vous allez jeter. Alors après, il y a la non-qualité qui évidemment est un des vecteurs à surveiller de près parce qu'elle peut engendrer des retours de plateau encore à moitié remplis, pas consommés. Et là, c'est la pire des situations. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est choquant et c'est toujours un chiffre qui doit nous faire réfléchir que de constater qu'autant de marchandises est
quelle est aujourd'hui la responsabilité des entreprises qui sont vos clients, vous qui êtes des fournisseurs de repas, quand elles élaborent le cahier des charges du repas tel qu'elles le conçoivent pour le fournir à leurs salariés.
Donc en fait, ça dépend s'ils ont des spécialistes déjà chez eux en termes de restauration. Effectivement, maintenant, on parle souvent soit à des représentants du personnel, soit avec des acheteurs, et on a même des sociétés aujourd'hui où ils ont à l'intérieur des achats, des personnes responsables de l'achat de restauration d'entreprise, mais qui connaissent très très bien le métier.
Mais globalement, vous avez le sentiment que vos clients, parfois, vous demandent quelque chose d'impossible?
Oui, par exemple, ils vont demander effectivement d'avoir des menus variés avec 8 entrées, 7 plats différents et, je sais pas, 8 desserts différents. Tous les jours, que ça change avec des cycles de menus.
Ça nuit à la qualité, la multiplication des plats.
En fait, ça peut nuire à la qualité, mais ça peut surtout nuire au fait de faire des prévisions. Je veux dire, on ne sait pas qui va prendre cette entrée là, qui va prendre ce plat là. Quand on parle de gaspillage, c'est ça, c'est les prévisions par rapport à ce qu'on a produit. Et on sait. Et nous, notre métier est vraiment très très difficile puisqu'en fait, on est obligé de se réinventer tous les jours. Par exemple, chez vous, je suis sûre que sur 2 semaines. Vous avez souvent les mêmes menus le mardi soir, c'est le poulet rôti. Vous variez quand même pas autant qu'on peut varier sur la restauration d'entreprise où on a des menus qui sont élaborés pour 6 semaines. On change toutes les saisons et à chaque fois on respecte un plan alimentaire.
Les cantines de demain, comment vous voyez ça avec justement l'augmentation des demandes particulières, ceux qui veulent du végétarien, ceux qui veulent du halal, du kasher, du bio, du très vite aussi à emporter. Comment ça va évoluer les cantines d'entreprise demain, selon vous, Stéphanie Hiral?
Je pense aujourd'hui qu'il faut aller vers plus de personnalisation. Là, on parlait des gaspillages effectivement sur les stands. Nous, on a réglé ce problème en étant aujourd'hui sur un principe de fait devant le client, c'est-à-dire que tout est sur mesure. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez plus votre carotte râpée ou votre œuf mayonnaise, par exemple. Comme on a une fois encore réglé pas mal de problèmes de flux. Grâce à notre outil monétique, on a mis plus de monde derrière les ateliers. Et en gros, aujourd'hui, chez nous, vous avez plein de gens qui sont là pour vous faire des choses secondes, minutes. Et en gros, on ne vous impose plus rien. Donc, j'allais dire qu'au niveau du gaspillage, ça règle un peu quand même les sujets. Parce que les gens prennent effectivement 2 minutes pour composer leur plat, mais il est fait minute devant eux. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi, je pense, un axe d'anti-gaspillage.
Les salariés sont prêts à attendre un peu?
Ah, bien entendu, parce qu'ils font plus de queue de toute façon pour la caisse. Donc, ils préfèrent passer 2 minutes à discuter avec la personne qui va leur faire leur plat et avoir quelque chose qui est fait minute frais devant eux. Et ça, je pense qu'effectivement, nous, en termes de gaspillage, on est années, on a réglé quand même pas mal de sujets comme ça.
Et pour vous, pour Elior, les cantines de demain,
oui, je pense que ça va être un mix de d'offres différentes. Surtout aussi, il y a un mix de générations, comme on parle entre guillemets de la génération Y. Ce sont ceux qui ont entre 25 et 35
ans. Eux, ils vous demandent quoi?
Mais eux, ils demandent pizza, pâtes, des choses. En fonction aussi, on peut avoir les femmes et les hommes. Les femmes sont plutôt des salades, tout ce qui est végétarien, des quiches, mais ils mangent plus des structurés.
Grosse différence entre entre les hommes et les femmes.
Oui, moi j'ai une collègue, elle va manger plein de petits trucs. Elle va prendre 3 desserts, 3 entrées, et parce qu'elle elle a 30 ans, et elle mange des structurés. Mais elle se fait plaisir. Et puis j'ai un autre collègue qui a 32 ans. Lui, il a besoin vraiment de que ce soit roboratif.
Une viande,
des féculents, un bon gâteau en dessert, etc. Donc, il faut qu'on puisse trouver effectivement des réponses à ce genre de demandes, mais également au fait qu'on a encore un mix de générations qui se côtoient, puisqu'il y a quand même une part des salariés entre 40 et 60 ans qu'il ne faut pas négliger non plus, qui disent justement, nous, on va au restaurant d'entreprise pour manger équilibré.
Les cultures, plus que les religions, plus que ce sont les générations là qui se heurtent dans les restaurants d'entreprise.
Oui, et puis les formats qui naissent, et les formats, je veux dire, je pense que l'attention à la qualité du produit, au manger sain, à respecter son corps, c'est plus important que jamais, et ça va continuer dans les années qui viennent. Ouais. Par contre, je pense que on va assister à une diversification des formats de restauration. Jusqu'à maintenant, on avait le self linéaire qui était ouvert entre midi et deux. Point barre. Demain, et c'est déjà une réalité dans beaucoup de d'entreprises, on a un espace de restauration rapide qui ouvre dès 9h le matin, qui est capable d'ouvrir jusqu'à 17h. On a des salades emportées.
Donc, pour résumer, pour conclure, prix, qualité, sécurité, diversité
et personnalisation. Ouais. C'est juste fondamental.
Praticité, ne pas oublier.
C'est ça. Ben, c'est la quadrature du cercle. Merci à vous trois. Naïta Gignoux, directrice marketing de Elior Restauration Entreprise. Stéphanie Héral, cofondatrice de Mamie Cocotte Restaurant Inter-Entreprise pour des cantines différentes. Et Olivier Schramm, directeur associé du cabinet de conseil en stratégie et dans le domaine de la restauration, PH Partners. Bon appétit, les voisins. Il est bientôt l'heure de déjeuner, en temps universel en tout cas. Et merci à toute l'équipe, Éléonore Krenik, Sandrine Straram, Jonas Malé-Solars, Romain Dubrac, pour toutes vos réactions. Vous pouvez nous écrire, bien sûr, à 7milliards@rfi.fr et écouter toutes nos émissions en libre service. Demain, 7 milliards de voisins, accès à l'eau, à l'électricité, une nouvelle arme de guerre. À demain.